Bonjour à tous. Comme un vendredi, conflit avec Françoise Boucher-Saulnier, médecin sans frontières, et avec Raphaël Pitti, formateur en médecine de guerre. Ils seront nos deux invités à partir de 12h55 pour la deuxième partie de la Grande Table. Alep, le droit peut-il encore protéger les populations? À l'heure où le Conseil de sécurité se réunit en urgence à New York, que peut encore le droit humanitaire? Peut-il être plus fort que les diplomaties? On en reparle avec nos invités. Mais d'abord, danser avec le chanteur dans une autre vie. Il était humoriste. Aujourd'hui, il chante la vie sur la scène du Rond-Point jusqu'au 6 novembre, puis à Caen, à Conflans, à Argentan ou encore au Mans. Je vous laisse deviner à quoi ça tient pour qu'il vienne jusqu'à vous en chantant. Ce midi, en tout cas, il est là avec nous, peut-être à contre-emploi, pas sûr. Bienvenue à tous sur France Culture et sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Le chanteur prend un temps assez long. Tout d'un coup, le chanteur s'aperçoit qu'il a oublié de placer son pied de micro au centre de la scène. Oui.
Bonjour le chanteur.
Bonjour.
Vous avez plus le trac sur scène ou dans la vie, le chanteur?
Parfois j'ai plus le trac quand je fais des émissions de radio intelligentes.
C'est vrai, vous pensez que c'est le cas aujourd'hui?
Mais peut-être.
On va voir, ça tient à vous. Comédien dans Les Deschiens, écrivain fantaisiste de Meux, voix de Rantanplan et du Chat du Rabbin, chroniqueur le vendredi matin sur France Inter, après Le Soir des Lions et La Fin du Monde est pour dimanche, vous êtes de retour sur la scène du Rond-Point, mais qui êtes-vous?
François Morel.
Pour y chanter La Vie, titre provisoire. La Vie, objet rare et provisoire. Le Rire pour réenchanter le monde. Avec votre complice, Antoine Salaire, qui compose, et trois autres musiciens qui jouent, et Juliette qui met en scène. C'est déjà votre troisième récital, François Morel, mais vous savez que c'est pas encore tout à fait dans ce registre-là qu'on vous attend, étonnamment. Vous en jouez d'ailleurs un peu, hein, de ce costume à contre-emploi. Crooner maladroit, animateur star de Balmusette et Fred Astaire, des beaux jours, pas sous la pluie. Vous savez sur quel pied danser quand vous êtes le chanteur?
J'apprends au fur et à mesure. Oui, un peu plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, quand j'ai fait mon premier spectacle, mis en scène par Jean-Michel Ribe, où je lui avais demandé de m'écrire des sketchs entre les chansons. Je m'étais dit, si vraiment le chanteur est trop épouvantable, le comédien essaiera de sauver la soirée.
Mais vous, intentionnellement, quand même, vous faites exprès, vous aimez continuer à mettre aussi de la théâtralité quelque part dans cette figure du chanteur. Vous mélangez les deux,
oui,
à la Maurice Chevalier.
Ah oui, c'est une référence, en
ça
fait. Oui, un peu. Bon oui, ce serait idiot de se dire je suis chanteur et j'abandonne complètement le personnage ou je sais pas, ou le comédien que je suis le reste du temps. Je pense aussi que les gens qui viennent me voir, qui m'écoutent par exemple sur France Inter ou qui ont vu les précédents spectacles, me retrouvent complètement dans ce spectacle de chansons. Et en même temps, j'ai la volonté de faire un vrai récital de chansons avec des vrais textes, des vraies musiques, des très bons musiciens et un concert quoi.
Vous aimez chanter, ça se sent sur la scène du Rond-Point, mais est-ce que vous aimez encore faire rire, rassurez-vous?
Ah ouais.
Ouais.
Ah ouais.
Rire comment?
Rire rire comment? Rire un vrai rire généreux, un vrai rire surprenant. Ouais, vraiment rire, pas forcément un rire ironique, pas un rire forcément méchant, un rire qui nous console.
Et de consolation, il est beaucoup question dans ce spectacle et aussi dans ce disque qui va avec. Vous aimez faire rire, sans systématisme, pourrait-on dire, mais pas au détriment des autres, sauf d'Aznavour.
Ah.
Pour toi, Arménie, qu'est-ce qu'elle me dit, enfant, c'est de donner, changeons.
Est-ce qu'on l'a dit tout à l'heure?
Bah oui, mais là, je pensais, comme j'avais travaillé le costume.
Non, mais c'est pas la question du costume ou je sais pas quoi. La question, c'est un problème de barème.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire, mes camarades musiciens et moi, il faudrait qu'on sache si on accompagne un chanteur ou un imitateur. Parce que c'est pas les mêmes barèmes, c'est pas les mêmes cotisations, c'est pas les mêmes caisses sociales.
Ah d'accord, ça ah oui. J'ignorais, oui.
Si vous voulez, si on accompagne un chanteur, on dépend de l'AGIRC, et on est à 18,6. Et si c'est un imitateur, C'est l'arco et on est à 5-5. Et on peut pas cumuler. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence Liane Folly.
Là, j'ignorais, oui.
Donc vous faites que vous choisissez, imitateur ou chanteur.
Bon, bah, je vais réfléchir.
Ce serait dommage qu'on soit obligé de se fâcher.
Ah bah non, pas question, non, pourquoi ?
Surtout que vous avez une belle chemise.
Vous voulez la chanter maintenant, cette chanson de François Morel ? Ici, il n'y a pas de barème. Vous pouvez y aller, François Morel. La chanson d'Aznavour qu'on ne vous laisse pas chanter sur scène.
Ah ouais.
Vous voulez la chanter maintenant ?
Non.
On n'a pas de barème ici.
Ah oui ?
Vous pouvez.
Non, mais je suis épouvantable en imitation. Il faut surtout éviter de me mettre à chanter. Non,
c'est pour ça qu'il vous sauve la mise, en fait, hein, vos musiciens.
Ouais.
D'accord.
Alors, en même temps, moi, j'ai une photo d'Aznavour dans mon téléphone que je montre régulièrement, où je suis en photo à côté de Charles Aznavour et je suis extrêmement fier de cette photo.
Alors, quand je pense quand même que dans ce spectacle, François Morel, vous avez même osé piquer à Brassens sa moustache. C'était un formidable parolier, Brassens, mais pas forcément une bête de scène. Là
moi,
où
je trouve
un...
que si.
Si
ouais.
Par sa présence.
Ouais.
Oui, mais pas par sa mobilité sur scène ou sa manière de.
Ah si, parce que c'était une bête de scène minimaliste. Il levait un sourcil, il tournait un peu la tête et on fondait devant lui. Donc c'était vraiment une bête de scène. Je pense qu'il avait une bonne maîtrise en fait de. Et il était le meilleur pour défendre ses chansons.
Et Raymond Devos sur scène, c'est une autre de vos idoles, non, Devos ?
Ah oui, bah Devos c'était merveilleux. C'était un très gros monsieur qui était d'une légèreté absolue sur scène. C'est surtout ce dont je me souviens. Je trouve qu'on le caricature un peu comme un type qui faisait des jeux de mots, et c'était bien mieux que ça, Raymond Devos.
C'est à lui que vous pensez quand vous êtes sur scène, non pas que vous soyez gros, pas du tout, vous êtes plutôt svelte, mais c'est à lui que vous pensez dans ces moments-là pour appréhender la scène ?
Non, pas du tout. Non.
À qui ?
J'y pense entre précisément quand je ne suis pas sur scène ou quand je l'écoute ou quand je me fais plaisir en le regardant. Mais je pense à moi, je pense au rapport avec le spectateur, je pense aux musiciens qui sont derrière moi, je pense à être extrêmement présent à ce moment-là pour partager ces émotions. Mais je pense pas que le spectacle que je fais là en ce moment, il pourrait ressembler à celui de Raymond Devos, dont le rire, je pense, était l'obsession. Moi, c'est pas tout à fait mon obsession.
Alors dans votre panthéon, il y a aussi Bourvil, Sempé, Zouk, Vialat, Macha Makaïef et Jérôme Deschamps et Jean-Michel Ribes. Pour les présents, c'est à deux, avec eux, que vous avez commencé à travailler, deux dont vous vous inspirez encore peut-être aujourd'hui, avec eux que vous vous êtes construit, deux dont il faut se démarquer en partie.
Oui, ça fait partie de mon. Oui, les trois personnalités dont vous parlez, là, font partie profondément de mon histoire. Mais ils m'ont appris plein de choses. Et je pense aussi une espèce de confiance dans l'intelligence du spectateur et aussi la complicité qu'on peut trouver avec les spectateurs. Quand on répète un spectacle, si on fait rire trois personnes qui sont assises sur les chaises pendant la répétition, souvent on peut faire rire 1000 personnes qui viennent. Et si on trouve exactement la moelle de ce qui fait rire. J'ai travaillé parfois avec d'autres metteurs en scène que Deschamps, Makaïef et que Jean-Michel Ribes aussi. Et je trouvais une chose drôle en répétition. Le deuxième jour, ça faisait moins rire. Le troisième jour, ça faisait plus rire du tout en répétition. Le talent particulier de Jérôme Deschamps, par exemple, c'est qu'il rit de la même façon tous les jours, au même endroit. Et c'est extrêmement fort comme retour quand on est sur scène. Parce que justement, on essaie de toucher à quelque chose d'essentiel de notre propre personnalité, notre propre rapport au monde, aux autres, qui peut faire rire et qui est très, très particulier.
Jérôme Deschamps, bon public, mais il n'est pas le seul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, François Morel, que c'est quand même vraiment vous que les gens viennent voir. L'ami, le bon camarade, la voix qui leur parle le vendredi, celle qui leur parlait avant dans leur poste de télévision. C'est vraiment ce bonhomme, ce personnage. On ne sait pas si c'est vraiment vous, au fond, quoi que vous ayez l'air sympa. Celui qui nous fait du bien. Et en fait, on a l'impression qu'à vous tout seul, vous êtes cette consolation que vous évoquiez tout à l'heure. Une bonne nature, en fait, hein.
Oui, j'ai l'impression que je gagne en bonne nature avec l'âge, oui.
C'est un bon vin, en fait. François Morel, vous n'aimez pas vous prendre au sérieux, mais vous aimeriez bien qu'on vous prenne au sérieux, parce que votre démarche est sincère. Et là, dans ce spectacle, qui se joue actuellement au Rond-Point, mais qui va tourner partout en France, et pas que dans les villes qui se terminent en « an », je donnerai un peu plus de la liste tout à l'heure, dans ce spectacle, mais aussi dans ce disque, album qui vient de sortir, « La vie, titre provisoire », vous êtes le chanteur.
Qu'est-ce qu'elle me dit au fond, cette satanée chanson? Qu'est-ce qu'elle me dit vraiment, avec son petit air entêtant? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi je ne la comprends pas? Elle est pourtant facile, cette petite chanson sur un fil. Plus je la chante, plus elle s'échappe. Quand ça lui chante, elle me rattrape. À chaque fois, elle fait mouche. Va-t-elle se rendre ici ce soir? Va-t-elle m'apprendre son histoire? Si je la siffle sous la douche, est-ce qu'elle complote un truc? Pourquoi elle me reluque? Est-ce qu'elle cache un regret derrière son petit air désuet? Mais qu'est-ce qu'elle veut de moi, à me titiller comme ça? Pourquoi elle me plaît tant, avec son petit air désarmant? Plus je la chante, plus je me perds, plus elle me hante et mes repères s'effacent comme la buée. Quelle que soit l'heure, c'est la torture, dans l'ascenseur, dans ma voiture. Elle ne sort plus de mes pensées.
Satanée chanson, extrait de La Vie, titre provisoire, entre parenthèses. Vous avez des satanées chansons qui vous hantent, François Morel? Ah, vous recommencez à chanter.
Tout le temps, plein.
Lesquelles?
La chanson de Prévert, de Gainsbourg. Puis des chansons liées à des lieux. Je vais à Amsterdam. J'ai plutôt à Amsterdam. J'ai une chanson de Guy Béarat. À Amsterdam, il y a des dames et il y a Dieu, etc. Non, j'ai plein de chansons dans la tête.
Ça, c'est les chansons qui vous hantent et des chansons repères, des chansons qui vous ont vraiment accompagné toute votre vie.
Je pense qu'il y a toute l'œuvre de Brassens, du début à la fin. Peut-être moins Les Deux Oncles, que j'aime un peu moins. Mais sinon, je sais pas, plein de choses aussi de Léo Ferré, de Maxime Le Forestier, de Thomas Fersen, de Vincent Delerme, plutôt les premières chansons de Vincent Delerme, quand je les ai écoutées, qu'il me les a envoyées sur une petite cassette.
Il est très beau, son nouvel album,
ouais,
vous l'avez écouté?
Ouais, je viens d'écouter tout de suite. Très émouvant. Il y a une vraie chanson qu'on peut chanter sous la douche, alors qu'il y a aussi des chansons qui sont très belles à écouter, par exemple la chanson sur son grand-père. C'est pas une chanson qu'on peut chanter, mais c'est une chanson formidable à écouter, à partager.
C'est un album chasse-pline quand même, hein, entre mélancolie et hymne à la vie, entre Saudade avec Amalia, hommage à la reine du fado, Amalia Rodriguez, Nostalgie aussi avec Le Petit Préféré, un album coquin parfois avec Striptease. Comment vous faites le loup de Tex Avery? C'est chaud, mais c'est aussi rétro. Il y a un hommage au musical vraiment dans cet album, François Morel, et au cinéma que vous adorez. Il y a aussi cette diversité, on la retrouve dans tous les styles musicaux que vous avez explorés à travers ce spectacle. Jazz, fado, valse, musical, chanson française, 4 musiciens qui vous accompagnent, mais une vingtaine d'instruments qui sont utilisés. En gros, cet album, il y a à peu près tout ce qui fait le sel de la vie à l'intérieur. Il faut raconter peut-être comment il est né, comment l'envie est née, de les pistes que vous avez pu nous en donner. Après le 13 novembre, sur une radio sœur, France Inter, donc vous exhortiez par l'anaphore à ne rien lâcher, ni la fête, ni le vin, ni la littérature, ni la foule des grands soirs, ni les étreintes, ni les folies, ni la légèreté, ni les chansons de Barbara et encore moins la liberté. Écrire un album optimiste, en faire un spectacle optimiste qui célèbre la vie. C'était votre manière à vous, François Morel, de répondre à votre injonction de ne renoncer à rien.
Oui. Hier soir, par exemple, le spectacle était extrêmement joyeux. Et dans le fond, je me dis, c'est exactement la couleur que je veux donner. C'est-à-dire, ouais, qu'on soit heureux. En même temps, qu'on soit heureux en évoquant par fois des choses extrêmement douloureuses, mais je pense que c'est extrêmement important la façon dont j'entre sur scène et dont j'aborde les chansons les unes après les autres, parce que ça pourrait être absolument sinistre. Et je veux qu'on passe une belle soirée joyeuse, généreuse, où on sort un petit peu plus léger.
Parce que vous parlez aussi beaucoup, vous chantez aussi beaucoup le temps qui passe, la mort, ça, ce sont aussi vos trouilles, vos obsessions.
Oui, la vieillesse aussi est très présente, l'enfance aussi, la vie.
La vie, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Surtout pas aux amis, il ne faut pas y renoncer, et surtout pas à la vie, vous l'évoquez. Sur ce coup-là, il faut quand même bien le dire, François Morel, il nous a un tout petit peu déçus, hein, le petit Jésus.
Ah, oui.
Ouais.
Vous voulez quoi?
Non mais c'est quand même assez dingue, parce que dans votre répertoire, il y a justement une chanson qui s'appelle Petit Jésus.
Ouais.
Vous voulez que je donne le là? Vous voulez bien nous la chanter?
Ça commence comme ça. Tu avais commencé très fort, tu changeais l'évian en Cahors, la cristalline en Chambertin, et la vitelle en saint pour saint. Mais depuis plus une nouvelle, pas un message, pas un email. Petit Jésus, tu m'as déçu. Après, tu nous as tous bluffés, au désespoir des boulangers. Il t'avait suffi d'un quignon pour nourrir toute une légion. Mais depuis ces silences radio, pas un coup de fil, pas un texto. Petit Jésus, tu m'as déçu. Puis il y a d'autres couplets, quoi.
Et vous la chantez comme ça, avec cette voix d'enfant. Vous êtes un grand enfant, en fait, François Morel. Je vous imagine en habit du dimanche, en train de mettre de la grenadine dans le bénitier. Vous étiez comme ça, petit?
J'ai pas l'impression d'avoir tellement changé, finalement. C'est-à-dire, je pouvais être intimidé, puis de temps en temps, j'avais des espèces d'accès de folie. En fait, je pratique pas mal les montagnes russes, et le spectacle est un peu comme ça aussi, entre douleur intense et joie profonde.
Pourquoi toutes ces références à l'enfance? C'est de la nostalgie envers un temps béni, pour vous?
Non, pas du tout.
Pas de regret?
Oh non. Puis en même temps, j'arrête de dire en même temps, c'est agaçant comme ça. Non ?
Ça s'entend pas.
Bon, je me sens pas très nostalgique, mais je sens qu'il y a de la nostalgie dans mon spectacle. J'ai plutôt la nostalgie des gens qui nous ont quittés, voilà.
Mais elle était belle, votre enfance, à vous ?
Elle était ?
Belle ?
Elle était tranquille, campagnarde, rêveuse. Avant, je disais un peu ennuyeuse, mais maintenant, je dis rêveuse. Parce que j'ai décidé d'être positif dans la vie.
Il y a peut-être aussi dans cette référence à l'enfance un truc à la Jean Genet, hein, qui disait « créer, c'est toujours parler de l'enfance ».
Oui, puis quand on écrit, soit on pense au passé, soit on s'imagine dans l'avenir. Donc c'est pourquoi, à l'âge que j'ai, l'enfance est présente et aussi la vieillesse et l'approche de la fin. Et puis voilà.
C'est pas parce que vous êtes sur France Culture que vous devenez
chiant.
Déprimant, non.
Non, mais c'est vrai que c'est difficile de parler profondément de mon âge aujourd'hui. J'en parlerai peut-être dans quelques années.
Ouais, je vais quand même vous renvoyer une dernière fois vers l'enfance. Vous rêviez déjà d'être le roi du music hall, comme vous le dites dans la chanson. C'est encore long l'enfance.
Un peu, ouais.
La scène, vous en faisiez un peu. Vous avez commencé tôt à chanter, à jouer.
J'ai fait des sketchs, j'ai fait des sketchs à la fin de l'année, à chaque fois, régulièrement. Je me moquais de mes profs quand j'étais à l'école. Et puis après, j'ai fait des spectacles en amateur quand j'ai eu 15-16 ans, où je disais des poèmes de Jean Tardieu, de Jacques Prévert, de Boris Vian, tout ça. Ouais, j'aimais bien.
Quel a été le déclic après pour en faire votre vie, votre métier?
J'avais très envie depuis tout le temps. Je crois que j'avais dit à ma grand-mère, je veux être Roger Pierre et Jean-Marc Thibault quand j'avais 5-6 ans, parce que je me souviens que j'étais plus petit que la table de la salle à manger. Donc c'est un truc très ancien. Après, j'ai fait des spectacles. Je me suis rapproché, j'étais un peu lent. Alors j'avais fait une maîtrise de lettres modernes à l'Institut théâtral de Caen. Donc je me rapprochais du théâtre, mais c'était plutôt une étude livresque. Moi, j'avais envie d'être sur un plateau et de comprendre les textes par les pieds, parce que j'aime bien être sur un plateau de théâtre. Et après, voilà, puis j'ai fait l'école de la rue Blanche et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est exactement ce que je veux faire.
Et pourtant, la comédie, le fait de jouer à un moment, c'était quoi? Trop limité pour vous? C'est pour ça que vous êtes allé vers la chanson? Ou c'était l'envie d'explorer?
Oui, c'est l'envie d'explorer. Je pense que c'est lié au fait que j'écris un peu. Je me suis mis à écrire des spectacles et peut-être que je tournais souvent autour des mêmes thèmes, et le fait de changer de support, ça me permettait de me déplacer. Et puis c'est toujours aussi des rencontres, celle avec Reinhard Wagner, qui est un merveilleux musicien, avec qui m'avait proposé proposait de chanter les chansons de Topor. À l'époque, je ne me sentais pas capable de chanter les chansons des autres. Je me disais un peu avec, je pensais à Brassens et des gens comme ça qui étaient, dont la présence sur scène était justifiée par le fait qu'ils écrivaient leurs propres chansons. Et je me disais, moi, je peux pas. Enfin, il y a tellement d'autres interprètes mieux que moi, des vrais chanteurs, pour chanter les chansons de Topor. Donc, quand il m'avait proposé ça, je lui avais dit, c'est pas mon truc, mais par contre, j'aime bien écrire des chansons et peut-être qu'on peut travailler ensemble. Mais cette fois-là, par exemple, dans ce dernier spectacle, je commence à me prendre plus au sérieux comme chanteur, puisque la chanson que vous avez passée tout à l'heure, cette satanée chanson, elle est Paroles et musique d'Antoine Salaire, et j'ai eu envie de la chanter parce que je la trouvais très belle.
Vous parlez de l'écriture, vous avez une fois confessé votre complexe du parler bien. Aujourd'hui, on vous lit, on vous entend chanter, mais aussi dans vos chroniques. Il y a un parler morel, d'après vous ?
Un parler morel dans la vie de tous les jours ?
Non, oui, ou dans votre écriture, plutôt. On sent qu'il y a quand même des mots que vous affectionnez particulièrement, ou une manière de jouer avec.
Ouais.
Qui a eu toute cette influence sur votre langage pour vous et cette écriture très particulière ? Vous citiez Topor à l'instant.
Est-ce qu'elle est particulière ?
Ah oui.
Ah bon ? Alors, je ne sais pas. Brassens, c'est une référence. Il y a Vialat et aussi sa liberté absolue de traiter n'importe quel sujet avec différents tons. C'est vrai que, par exemple, souvent on me demande mes références comme comédien, et finalement, dans l'écriture, c'est plutôt des références d'auteurs que j'ai en tête. Jules Renard, Marcel Aimé et Vialat, par exemple, ont été extrêmement importants dans ma façon d'écrire.
Et aujourd'hui, vous avez le sentiment de parler bien ?
Pas tellement quand je suis interviewé. Non, je n'aime pas tellement la façon dont je parle.
Ça passe par l'écriture.
C'est-à-dire, je ne me pose pas la question quand je suis à table avec des copains et je parle. Là, mais si on m'interviewe, je me dis je pourrais faire un effort. Je suis assez impressionné par les gens qui improvisent des belles phrases. Moi, je suis un peu obligé de travailler pour écrire mes chroniques quand elles sont correctement écrites.
Midi 24 déjà sur France Culture. François Morel est avec nous. Ce midi, il est même à nous, à France Culture. Et oui, tout arrive pour un spectacle et un album qui célèbre la vie et encore la vie.
Et oui.
Au début des cris et puis le silence. Quand ça disparaît comme par magie. On ne sait jamais pourquoi ça commence. On ne sait pas plus pourquoi ça finit au début du film. On est dans la brume, on met le nez dehors. On attrape un rhume, on sait rien du tout, même pas son nom. Ça finit un peu en queue de poisson. La vie, 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 la vie. La vie, la vie. Au début des cris et puis le murmure d'une voix fragile qui soudain se tait. On ne sait jamais combien tout ça dure. Une éternité, le temps d'un café. Parfois ça renonce, parfois ça s'agrippe. Ça peut s'arrêter à cause d'une grippe. Parfois ça construit en dessous des bombes. Ça peut rigoler un pied dans la tombe. La vie, 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 la vie. La vie, la vie.
François Morel, la vie, la vie, la vie. Pourquoi vous y croyez autant à cette vie qu'il faut célébrer pour vous aujourd'hui ?
Je crois qu'on écrit ce genre de truc quand on a envie de la défendre à des moments où elle est un peu compliquée, où elle est
douloureuse. Qu'est-ce qui la complique aujourd'hui ?
Là, en l'occurrence, je crois que c'est très lié à la mort d'une amie qui s'appelait Corinne Honigman et avec qui j'avais créé les productions de L'Explorateur avec Valérie Lévy. Et Et je crois que c'est que ce refrain tout bête, la vie, la vie, la vie, j'avais envie de le chanter pour elle.
Ce sont des douleurs personnelles, mais ça peut venir aussi, on le sent, de notre réel à tous. Il y a beaucoup de chansons qui restent un peu en prise avec l'actualité, décalées bien sûr, avec poésie, avec du burlesque, comme vous le faites sur scène et dans ces chansons. On parlait du petit Jésus tout à l'heure, où vous évoquez notre croyance ou non-croyance envers Dieu, et vous décalez cette question-là en se demandant si lui aujourd'hui est déçu ou pas, si nous sommes déçus de lui ou si lui est déçu de nous, ce que vous interrogez également. Il y a aussi cette chanson Selon la police sur les manifestations, avec là un manifestant qui va défiler plus pour draguer d'ailleurs que pour revendiquer quelque chose. Mais on retrouve quand même beaucoup de choses qui sont dans notre ère du temps. Et puis on le racontait, les attentats du 13 novembre qui ont quand même inspiré ce besoin de consolation, on le sent aussi pour vous.
Oui. Le petit Jésus, finalement, je me suis pas forcément rendu compte en l'écrivant de ce qu'elle racontait, parce que j'avais juste dans la tête ce refrain « Petit Jésus, tu m'as déçu ». Mais finalement, je me dis, c'est exactement ce que j'ai envie de défendre dans la religion, c'est-à-dire un rapport absolument intime et qu'il est complètement hors propos de faire du prosélytisme ou des choses comme ça. C'est une chose en soi dont on ne doit pas se moquer, mais c'est un rapport intime avec l'ailleurs.
Ça veut dire ne pas vous demander si vous croyez en Dieu, par exemple.
Ouais. Et puis, et l'autre aussi, c'est l'intelligence du public. C'est que le public, quand il vient dans une salle de théâtre, quand il écoute un disque, il vient aussi avec ses propres histoires. Et j'avais fait une chanson qui était juste sur le plaisir de passer du temps à une terrasse de café. Et tout d'un coup, cette chanson-là est devenue presque politique après justement le 13 novembre. Mais ce bonheur d'être ensemble, finalement, c'est une chose que j'avais aussi envie de défendre avant.
Ensemble et avec vos acolytes, rappelons donc Antoine Saller, vous l'avez cité, mais aussi Juliette,
dont
on a peu parlé, qui vous a mise en scène dans ce spectacle. C'était pas la première fois.
En ce moment, là, collaboration. Il y a Muriel Gastebois, Sophie Allour et il y a Monsieur Ma.
Et combien d'instruments? J'ai dit 20, c'est pas loin, c'est
pas
ça,
compté,
ça n'arrête pas de tourner des plus classiques ou plus extraordinaires.
Et heureusement, je ne joue d'aucun instrument.
Un grand merci François Morel, vous chantez, vous jouez et c'est déjà beaucoup. Vous êtes actuellement sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris et il y a une tournée qui commencera à partir de janvier dans toute la France. Ça va de Caen, ça va au Mans, ça va aussi à Épernay, à Blanquefort, à La Rochelle, à Tarbes, à Châtenay-la-Malabry. Vous serez partout. Un grand merci à vous.
Merci à vous.